Pour résumer qui vous, la situation actuelle dans les territoires des Maasai risque de déboucher sur une guerre interethnique s'il n'est pas bien géré. Déclaration mardi dernier à Goma du gouverneur Julien Paluku. Assemblée nationale, la commission économique et financière se penche sur le projet du budget 2013 après avoir été jugée recevable lundi dernier par la première. Quels sont les thèmes que vous propose Céline de la fête de ce soir? Pour qu'on soit journaliste qui participe à ce débat, il s'agit de Marcel Ngoï, il est éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonsoir,
Guillermo Colo, il est rédacteur en chef pour Canal Congo Télévision, une télévision qui est née depuis Kinshasa. Bonsoir Guillermo Colo.
Oui, bonsoir Dimalte, bonsoir les auditeurs de Radio Okapi.
Et Gaston Mouki, directeur général de la radio-télévision Manica et mettant des psychologies au Katanga. Bonsoir Gaston Mouki.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous qui écoutent Radio Okapi.
Le gouverneur du Nord Kivu redoute l'éclatement d'une guerre interethnique à Masisi. La commission économique et financière se penche sur le projet du budget 2013. Pour savoir comment la presse a accepté ces différentes informations, écoutons cet avis de presse que nous propose Samuel Katakin.
Bonsoir. Cette semaine a été marquée par l'appel de Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, sur la situation actuelle dans le territoire de Masisi, qui, selon lui, risque de déboucher à une guerre interethnique si elle n'est pas bien gérée. À ce sujet, le potentiel qui transmet le rapport des Nations Unies concernant les massacres des civils à Masisi révèle que, selon la MONUSCO, la dimension ethnique des attaques est particulièrement préoccupante dans l'est de la RDC, où les tensions au cours des 15 dernières années, bien que fondamentalement enracinées dans la lutte pour les terres et les ressources naturelles, ont résulté dans des cycles de violence à connotation ethnique. Selon le rapport, au moins 264 civils, dont 83 enfants, ont été arbitrairement exécutés par des groupes armés au cours de plus de 75 attaques des villages entre avril et septembre 2012. Pour la prospérité qui confirme ces chiffres avancés, à en croire les enquêteurs des Nations Unies, de nombreuses victimes ont été tuées à coups de machette, tandis que d'autres ont été brûlées vives dans leur maison. De son côté, l'avenir estime que les groupes armés à la base de ces exactions sont notamment les Raïa Mutomboki, les Maïmaï Kifofwa, les FDLR et les Nyatura. La tempête des tropiques relève que dans ce rapport des Nations Unies, quelques recommandations ont été formulées en direction de Kinshasa et la communauté internationale pour rétablir la sécurité dans le sud de Masisi et assurer la protection des civils. Il a été demandé au pouvoir de Kinshasa, entre autres, de renforcer la protection des civils sur cette partie de Masisi et traduire en justice les auteurs de ces crimes graves. Sur un autre registre, le projet de budget 2013 présenté par le Premier ministre Matata Ponyo a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale après de nombreuses discussions. Le phare titre à ce sujet, projet de budget 2013, Matata passe sans face. Selon ce journal, le document a été envoyé à la Commission économique et financière pour faire l'étage. Pour le potentiel, faisant la critique du projet de budget 2013 présenté par Matata Ponyo, Adolphe Mouzito estime que notre pays ne s'est jamais doté d'un budget de développement. Selon lui, les différents budgets présentés par les différents gouvernements de la République démocratique du Congo sont insignifiants par rapport aux besoins de la population.
Merci, Samuel Kachak. Un petit commentaire, Marcel Ngoï. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, quotidien qui paraît ici à Kinshasa. La qualité, c'est aussi ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains. Vous avez même évoqué ça dans une des éditions de votre journal La Prospérité, où on avance le chiffre de plus de 264 civils, dont 83 enfants, qui ont été arbitrairement exécutés au sud du Masisi, au nord Kivu, entre avril et septembre dernier.
Oui, et ces chiffres ne sont pas les seuls à être avancés, même si ce sont ceux-là que le bureau conjoint a pu publier. Vous voyez, c'est une période d'avril à septembre, mais si vous prenez en compte les autres périodes avant les massacres, peuvent s'avérer un peu plus importants que ces chiffres-là. Donc, ça nous donne quand même une indication du degré de dégradation de la situation humanitaire dans le Masisi, mais on n'a pas parlé du Rutshuru, on n'a pas parlé des autres coins du nord et sud Kivu qui font partie du théâtre des opérations, on n'a pas parlé non plus d'une partie de l'Ituri toujours en proie aux rebelles de la LRA, on n'a pas parlé non plus de tout ce qu'il y a comme mouvement aujourd'hui dans le Kasaï oriental avec des sévices auxquels certaines populations sont exposées autour de Kamiramanga. Donc, pour dire que la situation est préoccupante, il faudra que les autorités, au vu de cette revue si riche, puissent d'une manière ou d'une autre arriver à statuer sérieusement sur la question pour voir quelle est l'orientation qu'on prend.
Pierre Mokolo, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au canal Congo Télévision, une télévision qui est née depuis Kinshasa, 264 civils députés en avril et septembre. Et Marcel affirme que ces chiffres ne sont pas les seuls parce qu'on n'a pas évoqué les autres localités, on n'a pas évoqué les autres provinces. Et comment vous expliquez le fait que autant de personnes sont exécutées, des civils sont exécutés, sans que cela ne soit connu? On peut même penser que l'IPT, ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, on n'aurait jamais obtenu cette information.
Bon, j'ai comme l'impression que la vie humaine est devenue en tout cas sans valeur dans notre pays depuis pratiquement un moment. Et que, bon, on est tellement habitué à de telles situations qu'on estime que c'est une situation normale, ça ressemble un peu à des faits divers et qui se déroule pratiquement tous les jours. Et c'est dommage que ce soit seulement les organismes internationaux qui ressortent comme ça des telles situations. Mais moi, je me dis, l'important, c'est pas seulement les rapports qu'on publie tous les jours, tout le temps, tout le temps. Ce qui est important, sont les recommandations contenues dans ces rapports-là et leur mise en application, parce que c'est ce qui manque. Parce que je me rappelle, par exemple, quand l'AFDL venait avec les troupes rwandaises, cette dernière a commis beaucoup de massacres sur les réfugiés Hutu, des enfants qui ont été écrasés contre les murs, des femmes enceintes éventrées. Il y a eu des massacres en Badrava, des rapports avaient été à l'époque aussi publiés. Maintenant, ça a enterré. On a les massacres de Bunia Congo, a enterré. Beaucoup de rapports sur les violations des droits de l'homme n'ont jamais été, en tout cas, suivis des faits. Et je me dis, ce qui est important, c'est même pas les nombres qu'on cite maintenant, 200 et quelques qui sont exécutés de façon sommaire.
C'est beaucoup,
c'est beaucoup, mais par rapport à des chiffres qu'on nous a avancés, par exemple, Mme Hillary Clinton, je me rappelle, on parle de plus de 5 millions de Congolais qui ont été comme ça sacrifiés. Ils sont passés par force de profit au nom de quels intérêts, je ne sais pas. Donc, ce qui est important, il faut qu'on cherche des solutions à la cause, à savoir à la guerre qui se fait à l'actualité.
Gaston Moussi, je rappelle que je suis directeur général de la radio-télévision Manica et notamment depuis Colosie au Katanga. 264 personnes exécutées, c'est effrayant. Et Guillermo Colo dit que la publication du rapport, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la mise en application des recommandations contenues dans ces rapports. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait s'en suivre?
Pas grand-chose, hein. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de 200 et quelques mille tués, tout à l'heure, j'ai regardé, vous savez que la guerre à l'Est a coûté autour de 5 millions de Congolais. Après avoir publié ce rapport, on a classé, c'est tout, ça s'est arrêté là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et qu'est-ce que vous attendez qu'après 250 000 âmes congolaises, qui est quoi? C'est ça ce qui est alarmant, c'est ce qui est un tout petit peu révoltant. Parce que des vies humaines comme ça sont en train d'être liquidées sans qu'on prenne des responsabilités pour pouvoir arrêter. Il faut qu'on prenne le courage de faire un effort pour arrêter. Si on n'arrête pas, si on ne trouve pas de solution à ce problème, nous allons commencer à déplorer. C'est passé dans la revue de presse, on va oublier ça. Et demain, notre rapport nous parlera des 15 millions et après, et on laisse tomber.
Merci. Marcel Moïse, votre qualité, c'est les dérapages auxquels on assiste, les dérapages médiatiques auxquels on assiste depuis quelques mois, par rapport au conflit qui oppose le gouverneur du Katanga Moïse Katumbi et les bâtonniers Jean-Claude Muyambo. On sait que depuis hier, le CESAC a frappé et a sanctionné certaines chaînes au Katanga et mis en garde certaines personnalités.
Bon, je peux dire que c'est le reflet de cette contradiction, de ce conflit. Voici deux fils du coin du Katanga, deux personnalités membres de la majorité, deux hauts responsables, l'autre a été ministre, l'autre est gouverneur, qui s'est battu sur la place publique. Et donc, vous n'allez pas reprocher aux médias qui en parlent de l'avoir fait, d'avoir fait leur travail. Ce qu'il faut peut-être éviter, c'est d'aller aux excès, d'utiliser les voies extrêmes. Mais sinon, les médias ne peuvent que parler de ce conflit. Mais le problème aussi, c'est que comment on peut laisser ces deux fils, ces deux grands dirigeants sportifs d'ailleurs, parce que l'autre soutient une grande équipe du coin du Popo, l'autre soutient le tout qui s'en aimé. Et donc, chacun avec ses fanatiques continue à s'entre-déchirer sur la place publique tant que l'autorité suprême, l'autorité morale, la majorité, ne peut s'en saisir. On ne peut pas comprendre comment il y a autant de révélations dans les lettres publiées par Muyambo contre Moïse et la réaction de Moïse via des personnalités comme le député Kalumbo et tant d'autres honorables notables du coin, que le procureur général de la République ne puisse pas saisir toutes ces révélations qui, quand même, au finish, peuvent remettre en question la crédibilité même de la justice congolaise par rapport à toutes ces révélations justifiées par le souci de chacun d'avoir raison pour incriminer l'autre.
Jérôme Colo, deux personnalités importantes de la majorité présidentielle qui s'accusent mutuellement par médias interposés. Vos analyses.
Bon, personnellement, je me dis que Muyambo, le point de départ, c'est une série de lettres ouvertes contre le gouverneur Moïse Katumbi. Bon, ça aurait appelé aussi peut-être à des répliques en termes de documents aussi écrits. Mais que cela se transforme maintenant en pratiquement une bataille de diabolisation, une campagne de diabolisation mutuelle par médias interposés, bon, c'est vraiment déplorable. Et puis, Marcel Ngoï dit que c'est normal que la presse puisse en parler. Oui, la presse, si la presse en parle avec beaucoup de détachement, oui. Mais nous nous rendons compte, par exemple, que la presse qui est mêlée dans ces conflits-là, c'est une presse qui est pratiquement partie prenante dans ces conflits, qui alimente ces conflits, qui entre pratiquement de faire en sorte que ces conflits dégénèrent.
C'est la cause de la problématique de la notion de la responsabilité journaliste.
Tout à fait. Moi, je travaille dans une chaîne de télévision qui appartient à un acteur politique majeur qui, je crois, en 2006, a vécu pratiquement la même situation, un conflit avec une autre famille politique et la presse était là à pouvoir quand même faire ce travail-là. J'ai conseillé quand même à nos confrères de faire attention, de ne pas faire le travail qu'avait fait la radio et la télévision de Mille Collines, ce n'est pas une bonne chose parce que ces conflits-là, ça n'apporte rien dans le bon fonctionnement de l'État. C'est pratiquement des conflits privés, des positionnements, des luttes politiques.
Merci. Gaston Moukide, vous êtes au Katanga. Vous, quelle lecture vous faites de ce phénomène, vous qui êtes au Katanga?
Il faut dire que c'est déplorable qu'on arrive jusque-là. Mais comme la FISA Katanga a dû suspendre un certain nombre de médias pendant une période au Katanga, mais ça continue parce que le 29 octobre, Jean-Claude Muyambo est passé sur Moyeur TV, ça signifie ça. Et donc ça va continuer sur d'autres médias. Est-ce que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions à ces problèmes? Moi, je me dis que les deux acteurs, c'est d'abord les acteurs de la majorité. Si aujourd'hui on arrive là, parce que Muyambo est à la 13e lettre ouverte, est-ce que c'est comme ça qu'on peut arriver à régler un conflit? Il faut écrire, il faut publier, à quoi faudra-t-il qu'on démontre à suffisance tout ce qu'on écrit et qu'on en apporte les preuves? Ces deux membres d'une même famille, de la famille majorité, pourquoi est-ce que les responsables de la majorité ne peuvent pas mettre ensemble ces deux personnalités pour qu'on en arrive là?
Merci, nous vous abordons notre premier thème de ce soir. Province du Nord Kivu, la situation actuelle dans les territoires de Masisi risque de déboucher sur une guerre interethnique s'il n'est pas bien géré. Déclaration mardi dernier à Goma du gouverneur Julien Paluku. Par ailleurs, il a qualifié la situation humanitaire au Nord Kivu de très préoccupante. Il avance le chiffre de 700 000 déplacés, dont 300 000 nouveaux dus à la guerre déclenchée par le M23. D'autres questions d'ordre politique et économique ont été aussi évoquées par le gouverneur lors de ses face-à-face avec les médias. Les détails avec Denise Foukesso.
Vous répondez à assister à une guerre interethnique entre le Hutu et le Hunde, si ce dossier n'est pas bien géré, a déclaré le gouverneur. Julien Paluku propose quatre pistes de solutions comme voie de sortie des crises sécuritaires en province.
Le premier niveau pour moi, c'est l'arrestation de tous les criminels. C'est-à-dire, Bosco Badanda, Makenga, Inosa Zumurinda, Inosa Kaina, Bozen Garouye, Jiane Kazarama, doit être arrêté. Par qui? C'était notre débat. Deuxième volet, la solution. Il faut la démobilisation des troupes par les responsables des communautés ethniques. Troisième type de solution. Les quelques éléments qui vont être récupérés maintenant au CDM 23 doivent être envoyés à les centres de rééducation. Le quatrième niveau, c'est la prise de conscience de nos fils et filles du Nord Kivu.
Par ailleurs, je n'ai pas le coup qualifié de la situation humanitaire au Nord Kivu de très préoccupante. 7000 déplacés, dont 300000 nouveaux, dus à la guerre du M23. Il appelle à la solidarité internationale.
Nous voudrions en appeler à la solidarité internationale parce que depuis bientôt 3 mois, les déplacés n'ont pas accès aux vivres et aux non-vivres parce que les ONG, disent-elles, ont leur budget qui sont à la fin.
En ce qui concerne l'économie, Julien Paluku a déclaré que rien ne peut marcher dans un contexte de guerre. Goma, Denis Bouquet sur Radio Capi.
Lorsque vous suivez le gouverneur Paluku, il dit que tout part à chaque septième dans l'une de nos émissions de dialogue en congolais ici, c'était le 14 dernier. Il dit que tout part de cette logique de la création des groupes armés et ceci se forme autour de leurs ethnies. Il y a des communautés à Masisi comme les Hutus et dont les Nyatura se réclament d'être l'émanation et les Hunde dont les APCLSR se réclament d'être l'émanation. Et ces groupes se cristallisent autour des ethnies puisqu'ils espèrent qu'il y a des négociations en vue. Et donc, pour avoir voix au chapitre, il faut renforcer ses positions autour de ces ethnies. Ceci implique que ces groupes armés s'accusent mutuellement chaque fois qu'ils se posent un problème, banal soit-il. Marcel Moï, le gouverneur du Nord Kivu, il vient pas beaucoup. Tire la sonnette d'alarme suite à cette situation.
Il peut, c'est son droit et c'est lui qui a l'autorité, qui devait exercer l'autorité sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Mais je note tout de même que quelque part il a laissé une porte ouverte, il a laissé une parenthèse ouverte. Il dit qu'il faut absolument qu'on puisse arrêter tous les criminels, en commençant bien sûr par Bosco Ntaganda, qui est d'ailleurs recherché par la Cour pénale internationale. Et il s'est posé même la question, le gouverneur Julien Paluku, il s'est posé la question de savoir par qui, comment on peut arrêter tous ces criminels. Il a dit, là c'était notre débat. C'est justement par là qu'il faut commencer. Lorsque vous durcissez les tons, lorsque vous dites qu'il faut arrêter, ça veut dire que vous demeurez dans ce qu'on appelle l'option militaire. Et qui dit option militaire dit disposer d'une armée capable de désillusionner les rebelles sur les théâtres des opérations. Ça veut dire qu'il faut avoir une armée qui est sérieusement équipée et qui doit avoir une supériorité technique en termes de tactique militaire pour pouvoir déverrouiller ou si pas dissuader ou démanteler tous les réseaux de ces soi-disant criminels. C'est à ce niveau-là où se pose le problème de la République.
Jérôme Colo, le gouverneur Julien Paluku, dit qu'il faut arrêter les seigneurs de guerre, mais il ne dit pas précisément comment et par qui. Et Marcel Moï dit que c'est la question à laquelle il faut donner la réponse.
Bon, je ne comprends pas qu'il ait dit qu'il faut arrêter, il ne sait pas qu'il doit le faire. Bon, nous avions Bosco Ntaganda ici.
Il a dit que c'est notre débat.
Tout à fait, nous avions Bosco Ntaganda sur place ici pendant des mois et des mois. Et qu'il était visé par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Quand on est arrêté, on nous a dit que c'est un élément important pour la paix dans l'est du pays. Et on lui a même donné l'occasion comme ça de disparaître dans la nature. Après, on dit non, il faut l'arrêter. Moi, j'estime que la meilleure façon de le faire, c'est de réussir à neutraliser tous les groupes armés. Et je dirais que la RD Congo aujourd'hui est encore malade des groupes armés, malade des milices, malade des forces négatives. Et que le fait, par exemple, que l'État est réduit, en tout cas dans sa capacité de dépenses, soit en sorte que le Congo à l'Est est devenu pratiquement un no man's land, un territoire où pullulent des groupes armés de toutes sortes. Et ces groupes armés-là ne sont pas seulement à caractère ethnique, comme l'a dit le gouverneur. Ces groupes armés sont aussi des groupes qui ont comme vocation de pouvoir faire du business pour les comptes de leur leader. Donc il va falloir, comme Marcel a dit, que notre armée n'arrive pas à faire seul le travail. La MONUSCO est sur place là. Il va falloir qu'on renforce le mandat de la MONUSCO comme l'a recommandé par exemple le président français François Hollande et que cette MONUSCO monte en puissance, les FARDC montent en puissance. Et si on peut mettre en place une force spéciale qui soit capable de pouvoir en tout cas aider la RDC à combattre un à un tous les groupes armés, à nettoyer cette sous-région, cette région-là, les groupes armés, à ce moment-là, on pourra arrêter tous ces responsables des groupes armés. Aussi longtemps qu'on n'aura pas les forces armées sont capables de pouvoir les neutraliser. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra arrêter les responsables de ces groupes armés.
Merci. Gassons au sud, les groupes armés qui sont prêts à tout pour faire parler d'eux, pour constater qu'ils sont là. Et pour solutionner cette question, Hilaire Mokolo propose qu'on neutralise absolument tous ces groupes armés.
C'est devenu presque une habitude à l'air de feu que quand on veut avoir le pouvoir, accéder au poste, on doit prendre les armes. Parce que plusieurs d'entre eux ont été plébiscités pour avoir tué des gens, pour avoir massacré les Congolais. Et ils sont récupérés, gradés ici et là. C'est comme ça que les autres aujourd'hui, quelqu'un peut prendre les armes avec la compréhensible intention de faire parler de lui. Le gouverneur a parlé d'arrêter le seigneur de guerre. Pour arrêter le seigneur de guerre, il faut avoir une armée capable de le mettre hors d'état de nuire. Nous avons malheureusement la FARDC qui n'est pas très motivée. Motivée pourquoi? Parce que les paiements, le traitement ne suit pas. J'ai entendu certains membres du gouvernement parler de recrutement de militaires. C'est une bonne chose peut-être pour rajeunir l'armée. Mais si on rajeunit l'armée, mais le traitement ne suit pas. C'est-à-dire que les gens que vous envoyez en guerre ne sont pas motivés, je ne suis pas très sûr qu'on ait les résultats attendus. Quand vous faites un petit tour à l'est de la République démocratique du Congo, quelle que soit la guerre qui conduit, vous trouverez que les immeubles poussent comme des champignons. À qui appartiennent ces immeubles-là? C'est à un certain nombre de gens, une classe politique, des gens qui sont là-dedans impliqués et qui sont en train de construire au nom de la guerre. Donc cette guerre, c'est comme un business pour eux. Ils veulent que ça traîne parce qu'ils vont négocier. Eux, ils gagneront plus d'argent que les militaires qu'on envoie au front. Avec cette théorie, je ne suis pas sûr que nous soyons en mesure d'arrêter les seigneurs de guerre parce qu'ils ne vont pas se laisser arrêter. Il faut les attaquer, il faut les mettre hors d'état de nuire. Donc notre armée doit être motivée. La FARDC doit avoir un peu plus de prime de guerre. Qu'on cesse de donner ce prime-là au patron, mais qu'on laisse les militaires sur le terrain équipés. Je crois qu'il faut faire une bonne chose.
Merci, Martin Mouy. Tout ceci est la conséquence, et Gaston aussi de l'a évoqué, même le gouverneur aussi l'a dit dans son intervention devant la presse. Tout ceci est la conséquence de cette culture instaurée dans la société congolaise, selon laquelle il faut prendre les armes pour espérer connaître une certaine promotion dans la société congolaise. À votre avis, que peut-il faire pour extirper cette logique de l'opinion publique congolaise?
Mais pour y arriver, moi je crois que on doit constituer une meilleure base. La meilleure base doit être cimentée sur le dialogue. Aujourd'hui, lorsqu'on parle ici à Kinshasa, d'ouvrir des concertations, de pouvoir prendre langue avec l'opposition, de pouvoir de temps en temps consulter cette opposition quand il y a des questions cruciales qui intéressent l'avenir du pays. Qui fait quoi? Qui y croit? Qui accepte? Lorsqu'on nomme un informateur et à qui on confie la mission de prendre langue avec la classe politique. Et cette classe politique se mobilise, amène des propositions concrètes pour voir dans quelle mesure contribuer, participer. Non, il y a des gens qui pensent qu'il faut fermer la majorité. Il ne faut plus l'ouvrir à d'autres, même s'il y a des nouvelles adhésions. Alors, mais ici, je crois que c'est ça le fondamental. Le refus du dialogue, le refus de l'intégration des autres, le refus de la considération du fait que si les autres viennent, il risque de rafler toutes les places, alors que la République a besoin de tous les citoyens pour son éclosion. Donc je pense que le ciment, c'est celui-là. Tant qu'on n'acceptera pas de dialoguer, de s'ouvrir aux autres, les gens pourront d'une manière ou d'une autre recourir aux voies extrêmes. La rébellion n'est qu'une des formes. Et comme vous le savez, c'est aussi une forme de pression. La guerre est une politique avec effusion de sang, mais la politique elle-même, c'est une guerre. C'est sans effusion de sang.
Gérard Mokolo, selon Marcel Ngoï, la rébellion n'est que qu'un des reflets de ces refus de dialoguer au sein de la classe politique congolaise. Une certaine opinion pense que les populations, entre elles, n'ont pas de problème, mais que c'est plutôt certaines personnes pour des fins politiques qui se permettent de manipuler ces différentes communautés.
Bon, c'est pas totalement fondé. Vous savez, en fait, une révolte a toujours eu plusieurs causes. C'est pas seulement les gens ne se révoltent pas, ne montent pas une rébellion seulement pour chercher le pouvoir. Vous avez par exemple au niveau de la province orientale, il y a des communautés locales qui se sentent, par exemple, flouées dans l'exploitation des sociétés forestières. Ils disent non, nous devons nous révolter pour revendiquer, par exemple, notre droit à l'accès à nos richesses. Il y en a d'autres qui se sentent, par exemple, brimés. Je vous donnerai un exemple. Quand l'appel est arrivé ici, on a codifié un groupe de gens comme étant le code 032. Et il fallait faire payer, par exemple, à un groupe de gens ou des originaires d'une province, je ne citerai pas ici, parce que nous sommes dans une radio de la paix. On dit, vous êtes code 032, vous devez suivre, par exemple, les 32 ans, et au pouvoir par votre frère, vous êtes exclu. Ça aussi, ça peut être une raison pour laquelle quelqu'un peut comme ça se lever, dit non, contre cette injustice, nous devons nous lever. Pouvoir quand même nous faire respecter pour que nous ayons droit au chapitre.
Et par rapport à ces personnalités et aux dessins politiques qui se permettent de manipuler la cible sensible de la cohabitation entre les communautés, qu'est-ce que tu fais?
Bon, moi je pense que nous devons aussi, en termes de discours, faire très attention. Je donne un exemple, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez appris le refus de la plénière d'invalider un groupe de députés qui avait été validé par la Cour suprême de justice. Et les arguments qu'on a avancés, les arguments d'ordre ethnique aussi, personnellement, je n'ai pas apprécié. On pouvait s'arrêter à dire, par exemple, que la CENI avait dénoncé des irrégularités et qu'on ne peut pas valider une élection qui s'est fait avec beaucoup d'irrégularités. Il faut qu'on reprenne ça. Mais qu'on ait dit, par exemple, que non, ce contrée est habité en majorité par les Hundes, par exemple, comment se fait-il que les Hutus, les Tutsis soient élus, soient les seuls, par exemple, élus de ce coin-là? Ça, c'est brandi des arguments ethniques et qui risquent pratiquement d'avenir la situation. Et en dernier lieu, je voudrais quand même revenir sur la fameuse prime à la rébellion, à l'indiscipline, à la guerre, tout ça. Moi, je pense que le temps est révolu maintenant de pouvoir accorder une tribune à tout ce qui prend les armes. Leur place, leur sort, il faut le combattre jusqu'au bout et le neutraliser. Parce que on peut aujourd'hui récupérer certaines personnes qui prennent les armes. Demain, d'autres se diront non, devons se recourir à la même méthode pour accéder au pouvoir ou pour accéder à des postes.
Merci. Gaston Moscouide, il faut bien gérer cette question dans l'Est de la RDC. Et notre facteur, c'est celui que Marcel Ngoï propose. Il propose un dialogue entre la classe politique et les forces vives de la nation. Mais il y a aussi des gouverneurs Julien Paluku qui pensent qu'il faut continuer les dialogues avec les chefs de différentes communautés, un dialogue qu'il avait déjà initié. Mais étant donné que ce dialogue a démontré ses limites, il pense qu'il faut associer à ce dialogue une approche militaire.
Oui, mais quand vous parlez de dialogue, c'est justement le cycle qui va continuer. Quand vous dialoguez, c'est-à-dire que vous allez donner l'amnistie à ces seigneurs de guerre. Quand vous dialoguez, ils vont vous poser des conditions. C'est là où nous en sommes aujourd'hui.
Oui, les gouverneurs, quand ils parlent de ce dialogue-là, c'est avec les leaders des différentes communautés afin de dissuader, de décourager tous les éventuels manipulateurs. Voilà.
Tout à fait. Parce que de toutes les guerres, de tous les génocides qui ont existé de par le monde, c'est souvent aussi pas toujours des politiciens qui sont là en train d'influencer la population pour dire nous ne sommes pas représentés, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et souvent ça crée un problème. C'est ça ce qui nous manque en RDC, il nous manque le nationalisme, le vrai nationalisme qui pousse les gens à travailler pour l'intérêt de toute une nation. Et les gens vont vous dire, notre tribu est sous-représentée, notre ethnie est sous-représentée, il faut qu'on défende ceci ou cela, ça fait que nous nous retrouvons en train de nous battre. Et quand il y a la guerre, il n'y a pas que ceux qui ont été attaqués qui perdent. Même ceux qui ont commencé la guerre perdent aussi quelques éléments. Je crois que c'est une bonne leçon pour les Congolais de se sentir unis et de défendre le nationalisme et de penser que nous sommes tous Congolais. Les tribus, les ethnies, c'est arrivé comme ça. Il n'y a personne qui a choisi ça. Mais si nous devons nous battre pour les ethnies, pour les tribus, je crois que nous rentrons longtemps en arrière.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Assemblée nationale, la commission économique et financière se penche sur le projet du budget 2013 après avoir été jugé recevable lundi dernier par la première. Après la réplique du premier ministre aux préoccupations des députés dans son intervention, Augustin Matata Pono a résumé les questions des députés en trois points essentiels, à savoir les programmes d'action du gouvernement, la mise en œuvre du dit programme et la stratégie budgétaire. Il a aussi affirmé que le gouvernement compte poursuivre les grandes réformes, notamment la gratuité de l'enseignement des bases, l'appui à la campagne agricole, la bancarisation et la modernisation du mode de gestion de l'État. On écoute le Premier ministre Matata Pono dans cet extrait requis avec le concours de nos confrères de la radio-télévision du groupe L'Avenir.
Il convient de relever que la présentation du budget déficitaire reflète en effet l'existence de besoins de financement, dont le financement est susceptible d'être trouvé moyennant certains préalables. Les progrès réalisés par notre pays dans la mise en œuvre des différentes réformes, y compris dans les domaines de la gouvernance économique et la mise en œuvre de notre programme avec le partenaire au développement, ouvrent une perspective encourageante pour l'obtention des appuis budgétaires, notamment auprès de certains bailleurs traditionnels, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement. Votre gouvernement est fermement engagé dans la consolidation de ces progrès et travaillera conformément aux bonnes pratiques de gouvernance de la matière avec le partenaire au développement à l'effet de la finalisation et du décaissement de ses appuis pendant l'exercice budgétaire 2013. Les montants escomptés sont du reste supérieurs aux gaps qui se trouvent dans le projet de l'exercice du budget 2013. Celui-ci ne sera donc pas couvert par un financement monétaire comme l'ont insinué certains honorables députés, car le gouvernement entend plutôt continuer à mener des politiques monétaires prudentes et qui favorisent la croissance économique et qui consolident la stabilité du cadre économique.
Guillaume Colo, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Canal Congo Télévision, une télévision qui est née depuis Kinshasa. Le projet du budget 2013 a été jugé recevable. Votre analyse.
Bon, personnellement, ça ne me surprend pas. C'est un exercice auquel nous sommes habitués pratiquement chaque année, lorsque les différents premiers ministres se présentent au niveau de l'Assemblée nationale pour présenter les projets de budget. On fait critique acerbe contre les projets à la fin. La majorité mécanique est là. On aboutit toujours au vote de ces budgets qui est jugé recevable et qui est envoyé au niveau de la commission Ecofin pour toilettage. Et après, c'est le Sénat, commission paritaire et le budget promulgué. Mais ce qui n'arrive pas à être fait, c'est de voir ces budgets-là vraiment faire en sorte que l'État ait le moyen de sa politique. Malgré qu'on voit des budgets où on nous apprend chaque année que non, l'enveloppe a augmenté, mais on n'a toujours pas un budget à même de pouvoir faire en sorte que les Congolais vivent vraiment mieux qu'il y a quelques années. Et deuxièmement, on a toujours ce budget-là au cours de sa présentation, on ne présente pas la rédaction des comptes, on ne dit pas aux gens comment est-ce que ce budget-là a été exécuté. Et on peut prévoir les recettes, on n'arrive toujours pas à avoir ces recettes-là dans les caisses de l'État. Et puis, en termes de dépenses, il y a des lignes budgétaires entières qui sont prévues, qui n'arrivent pas à être décaissées. Je me rappelle, Médecins sans frontières avait organisé, je crois, un atelier. On s'est rendu compte, par exemple, que pour la prise en charge des patients avec le VIH et le SIDA, c'est pratiquement moins de 5% des montants qui sont décaissés, effectivement. On se rendra compte que, par exemple, au niveau de cette institution, on arrive à un dépassement de 200%, 300%. C'est un peu déplorable. Ce que nous devons faire, c'est chercher d'autres sources de financement, comme nous l'avons dit la fois passée. Il faut faire en sorte que nos richesses arrivent pratiquement vraiment à donner à des quartiers moyens. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre que la Libye, par exemple, qui n'a que le pétrole, est un pays florissant où la population vit dans des conditions meilleures, mais nous avons été bénis par la nature.
Nous sommes qualifiés de standard géologique.
Standard géologique, mais nous n'arrivons pas à voir du moins de notre politique gouvernementale.
Merci, Martin Ngoy. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Et on sait que l'opposition n'a pas voté pour ces projets de budget. Et parmi les raisons qui ont été avancées par l'opposition, c'est le fait que ce budget est déficitaire, selon l'opposition. Cela est une violation de la loi relative aux finances publiques, une loi qui pourtant consacre l'équilibre budgétaire.
Oui, c'est une raison qui a été avancée et pour laquelle le Premier ministre n'a pas donné une réponse assez claire. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que le Premier ministre, dans sa réponse aux députés, a promis ce qu'on appelle la réduction du train de vie des institutions. Un peu comme mesure drastique, mesure urgente à prendre pour pouvoir trouver des moyens permettant de faire face au social, à renforcer les enveloppes consacrées à la paie des fonctionnaires, des militaires, des policiers, et ainsi de suite. Comment alors le Premier ministre pourrait-il le faire dès lors qu'on connaît comment ce pays fonctionne? Au jour d'aujourd'hui, il y a des lignes budgétaires, hier l'a dit, entières qui n'ont jamais été exécutées dans les budgets successifs précédents. L'autre fois, je vous ai rappelé la situation de chez moi, à Cabinda, où plusieurs fois les autorités de Pumuzé, jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais mis en exécution leurs promesses. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que si les journalistes n'ont jamais trouvé leur compte, si les artistes n'ont jamais trouvé leur compte, il y a des catégories entières, des médecins, des infirmiers, des professeurs d'université, bien qu'ils ont trouvé, on leur a donné des guides, mais l'amélioration sensible de leurs conditions de vie ne suit pas.
Encore que les guides, il faut les entretenir, il faut avoir les moyens de le faire.
Donc, autrement dit, il y a là un problème réel. Le problème que vous soulevez ici concernant le budget déficitaire, mais lorsque vous ne vous êtes pas conformé à la loi de finances ou au prescrit de la loi en cette matière, alors, maintenant, vous faites un budget déficitaire, mais le déficit que vous prévoyez est un gap qui ne prend pas en compte les vrais besoins. À ce moment-là, il faut aller au-delà pour exprimer ces besoins de financement, de façon que, à ce moment-là, qu'on puisse recourir à d'autres marchés qui existent. Il y a des fonds qui flottent sur le marché financier, le marché auquel nous ne sommes pas éligibles. C'est ça le vrai problème.
Mais pourquoi on n'est pas éligible, on n'est pas crédible?
C'est comme quand vous avez une société. Si on vous demande le bilan de cette société, on trouve que c'est bilan. Vous avez plus de dettes que les avoirs. Comment vous irez encore vous endetter pour qu'on vous donne? C'est ça le problème ici. Nous avons ces problèmes dans ce pays. Nous avons un problème de solvabilité, un problème de crédibilité, un problème du niveau d'endettement excessif. C'est pourquoi nous ne sommes plus qualifiés à être sélectionnés parmi les nations auxquelles on peut prêter davantage de l'argent pour que cet argent permette de financer le développement. Je souligne quand même en passant la sortie de Mouzito. Mouzito était un ancien premier ministre, était un ancien ministre du budget. Mouzito dit, dans son intervention à Fatima, que dans ce pays, le budget qu'on a toujours présenté, ce n'est pas un budget de développement. C'est un budget pour la construction de l'État. Parce que pour lui, il est difficile d'envisager le développement pour un pays qui n'est pas en voie de développement. Pour un pays dont les infrastructures, dont les bases de l'État n'existent presque pas. Il faut les reconstruire.
C'est une analyse qu'il a faite récemment avec les députés.
Pendant qu'il est député, mais là, il est élu député. Il fait une réflexion en tant qu'ancien pour dire que vous déplorez la modicité des sommes prévues dans ces budgets, mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que l'État lui-même, au niveau où il se trouve, c'est un État fragile. C'est un État qui est pratiquement à la queue des pays pauvres qui sont endettés.
Donc, qui est lié à l'État?
À l'État qui est soumis à l'insécurité à l'Est, l'État qui est soumis à la dégénérescence de la situation en termes de gestion politico-administrative, les entités politico-administratives pour les refaire, pour les réorganiser. Donc, et puis, un État dont le processus démocratique pose problème aujourd'hui. Vous avez les assemblées provinciales qui ne fonctionnent pas très bien, vous avez des gouverneurs qui sont redoutés, qui sont décriés, qui continuent à gérer. Nous avons un processus électoral malade. Donc, avec les arriérés législatifs de 2006, aujourd'hui encore de nouveaux arriérés se préparent pour 2011.
Gatou Moukid, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Manika et mettant des picolos au Katanga. Les recettes extérieures sont estimées à environ 2 milliards de dollars et le gouvernement dit espérer de la part des partenaires classiques des appuis budgétaires. Il y a le député de l'opposition Jean-Lucien Boussa, qui a commis une coquine à l'Assemblée nationale, qui affirme que les appuis budgétaires depuis 5 ans, n'ont jamais dépassé 600 millions. Et donc, il ne voit pas comment aujourd'hui le gouvernement peut espérer obtenir de la part de ces mêmes partenaires 2 milliards de dollars américains.
Ok. Je sais que les députés l'ont dit, mais les prédécesseurs ont dit la même chose. Vous savez que quand aujourd'hui nous parlons du budget 2013, parlons un peu de retomber du budget 2012. Il y a eu un budget qui a été voté pour 2012. Quelle est la visibilité de ce budget-là? Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui n'a pas changé? Aujourd'hui, nous parlons d'un budget de 2013, c'est en fait un budget fictif. Parce que quand vous espérez obtenir des partenaires, des bailleurs de fonds internationaux, 2 milliards, ils ne vont pas donner, et bien ça signifie que la population va se retrouver dans la même situation qu'il y a des années. Parce qu'il n'y a pas d'efforts qui sont consentis pour pouvoir relever le niveau de vie des populations. Le Premier ministre, il a parlé de la gratuité de l'enseignement de base. C'est quoi la gratuité? Pendant que le ministère ou de l'enseignement dit qu'on ne paye pas le minéral des 100 francs, les parents ne payent pas les frais de fonctionnement qui sont évalués à Colésie à 1000 francs, donc l'État congolais sait que les parents ne puissent plus payer 1100 francs congolais, mais ces mêmes parents payent 500 et 5000 francs congolais le mois en termes d'appui ou de motivation des enseignants. Est-ce que vous pouvez parler de la gravité de l'enseignement? On a parlé ici de réduire les temps de vie des ministres et députés. Est-ce que c'est fait? Aujourd'hui, les députés sont contents d'avoir voté ce budget. Bientôt là, on va le promulguer, mais là-dedans, la population n'aura pas à se retrouver. C'est que, au Katanga, moi je vis au Katanga, où il y a un bout minier. On parle de l'exploitation minière de produits ivrés et cobaltifères. Il y a énormément d'entreprises expatriées qui sont venues, qui ont remonté, qui ont multiplié leurs devises. Ils trouvent les cobalt et les cuivres ici. Pourquoi est-ce que la GKB, société d'État, ne peut pas aller en bourse pour pouvoir aussi élever des sommes et développer le pays?
Gérard Mokolo, la majorité au pouvoir pense qu'il ne faut pas s'alarmer, étant donné que le texte se trouve dans la commission Ecofin et qu'il y a encore possibilité d'être réagité.
C'est le discours que nous entendons pratiquement chaque année. On va réajuster, mais au finish, on se rendra toujours compte que l'État n'a pas encore le moyen de sa politique. Je voudrais quand même préciser les difficultés que nous avons ici au Congo de pouvoir avoir suffisamment de moyens. Vous savez, l'État, ce n'est pas un commerçant. L'État crée les conditions pour que les gens viennent investir, pour que les emplois soient créés, pour que les richesses soient créées. Il se pose un problème dans ce climat des affaires qui n'est pas du tout bon. Vous savez, dans les rapports de 2019, nous avions été mal cotés. Tout simplement parce que ceux qui sont préposés de l'État, ceux qui travaillent pour l'État, posent des actes en fait qui ternissent l'image de l'État. Et je prends un petit exemple sur le chapitre de la propriété privée. Vous voyez le même État qui, par exemple, lotit un terrain, qui accorde des autorisations de bâtir à des groupes de gens et qui accorde même des certificats d'enregistrement. Et je prends un procès qui est en cours ici. Notre ancienne consoeur, Elisée Dimanja, qui est en procès contre le gouverneur André Kivu-Tayango et le colonel Kanyama, qui est venu avec ses policiers, par exemple, raser cette maison sans que cette dame ait été avisée par écrit, et comme c'est l'investissement d'autant de milliers de dollars qui partent comme ça en fumée. Mais qui viendra encore, par exemple, investir dans ce pays, qui pourra investir dans le domaine immobilier? On se dit, mais voilà, pour des Congolais, voilà le sort qu'on les réserve. Et moi, étranger, si je veux investir là-bas, quel est le sort que moi je vais, qu'on va me réserver? C'est ainsi ça le problème qui empêche le Congo de pouvoir avoir en tout cas le moyen de sa politique.
Merci. Marcel Moyer, il y a encore possibilité que ce budget soit réajusté par la commission Ecofin.
Le réajustement ne peut pas dépasser les prévisions établies, dépasser un peu ce que le Premier ministre a proposé. Vous savez qu'on est dans la logique de la majorité-majorité. Majorité qui entérine ce que le Premier ministre dit, majorité qui refuse que ce Premier ministre vienne se justifier quand il s'agit des explications qu'il faut obtenir sur des dossiers, majorité qui évolue sous les systèmes de mots d'ordre donnés d'en haut. Donc nous avons cette majorité-là. Je voudrais quand même dire que le Premier ministre est en France. Il est allé frapper à la porte de la France pour pouvoir obtenir un accompagnement de la France à son programme. Outre les questions des droits de l'homme, les questions de démocratie, les problèmes de conflits post-électoraux, le Premier ministre sollicite les moyens de la France pour pouvoir accompagner son programme. Espérons que la France, l'Europe, et les États-Unis et tant d'autres pays pourront accepter de soutenir le Congo à travers ce budget, si à travers cette demande du Premier ministre, si tout va bien.
Merci, c'est la fin de cette émission. Restez sur la la technique, et Samuel Kassak à la réalisation, sous la supervision de Télé Tutera Mondo, devant ton micro, du maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Thank you.